Alors, on est au salon Le Vin de Mes Amis, qui est un salon qui se passe à la Maison de l'Amérique Latine. Le lieu est évidemment magnifique, en plein cœur du 7e arrondissement, enfin voilà, du quartier latin.
Boulevard Saint-Germain.
Boulevard Saint-Germain à Paris, voilà, c'est superbe, des grands salons. C'est un chouette salon des vins. Parce que y a quand même une belle collection de vignerons de premier plan, on peut dire. Pas mal de gens, j'ai envie de dire pas mal de gens qu'on a eus. On ne les a pas tous eus dans l'émission, mais pas mal de gens qu'on aime bien dans l'émission. Patrice, si tu dois en citer quelques-uns. Bon, y a évidemment Antoine Arena qui est là.
Xavier Ledogard.
Xavier Ledogard qui est notre invité.
Domaine Plageol, Ovette, Foradori en Italie. Je ne sais plus, il y en a trop, on ne peut pas tous les citer.
C'est un chouette petit salon, on a eu la chance grâce à Charlotte Senna qui l'organise de venir y poser nos micros. Et la première rencontre, c'est quelqu'un que toi Patrice tu as rencontré en Corse sur la terrasse d'Antoine Arena cet été. C'est Xavier Ledogard, voilà, qui est en face de nous. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Avec ce bel accent de l'Aude. Le domaine Ledogard, vous faites vos vins depuis 98.
C'est exact.
Mais c'est pas pour ça que, enfin, c'est pas en 98 que vous avez commencé à être vigneron. Raconte-nous un petit peu l'histoire.
Tout à fait.
Domaine.
Voilà. Donc, moi, je suis quelqu'un des Corbières, hein. Quelqu'un de assez. J'aime beaucoup la nature. J'aime beaucoup la nature, la solitude aussi. Et j'étais souvent dans les vignes quand j'étais jeune, avec mon père, mon grand-père. Donc j'ai pris goût sur le tas, voilà. Donc mon père était en cave coopérative.
Ouais, c'est ça.
Voilà, il était en cave coopérative, il faisait des raisins. Il a toujours voulu faire son propre vin, mais quand on apporte les raisins à la cave coopérative, quoi, il y a une certaine période, une durée. Voilà. Nous, chez nous, c'était 27 ans.
Donc, un engagement à apporter sa vendange à la cave
pendant
27 ans.
Pendant 27 ans, voilà.
Parce que la cave fait des investissements, voilà. Et ne peut pas se permettre d'avoir des vignerons
tout
qui
à fait,
quittent
c'est ça.
La copée. Et ça, c'est l'âge à peu près où toi...
C'est l'âge, voilà. Au bout de 27 ans, c'était en 93. J'étais à la fin de mes études. Donc, avec mon père, j'ai décidé de venir travailler avec lui. Il n'était pas très, très d'accord. Il voulait que je continue les études, lui. Bon, je le comprends un peu, mais j'étais tellement passionné, moi, par la nature, par ce métier, que j'ai voulu faire ce métier. Donc, en 1993, j'ai arrêté les études pour partir avec lui. On est resté 5 ans encore en cave coopérative. Et en 1998, on s'est lancé. On a acquis une cave dans le village, une vieille cave, qui était défectueuse. Hein. On a refait pas mal de choses, on a acheté un matériel et première vinification en 1998, avec l'aide d'un œnologue. Voilà.
Je prends. Et oui, c'est ça, parce que vous saviez tenir la vigne, mais vous ne saviez pas encore faire du vin.
Voilà, c'est ça. Moi, mon père était un très bon viticulteur. On avait des raisins magnifiques. Ils trouvaient dommage de l'amener à la cave coopérative et pas travailler, non, faire notre vin. Donc le souci, il était là. On a pris un oenologue qui nous a appris un petit peu à faire du vin. Et voilà, 3-4 ans. Et après, moi, je vinifie seul, quoi. J'ai besoin de personne. J'ai besoin d'avis, bien sûr, hein, comme tout le monde. Parce que quand on fait ses propres vins, on cherche tous les défauts. Sur tous les défauts dans le vin. Donc on a besoin de notre avis.
Est-ce qu'il y a une écriture, enfin, tu cherches quoi dans le vin? Parce que du coup, quand on fait le vin tout seul, on veut faire un petit peu un vin d'auteur, comme on dit.
Voilà, c'est ça.
C'est quoi toi, ton écriture, ce que tu cherches?
Moi, le vin, j'aime beaucoup la buvabilité dans les vins. Donc je suis dans une région quand même qui est dans les Corbières, des vins sont assez puissants. En m'ouvrant... Quand j'ai commencé à goûter d'autres vins d'autres régions, c'est un peu difficile chez nous ça, parce qu'on ne boit que nos vins, hein, dans notre région. Donc quand j'ai commencé à aller voir ailleurs, j'ai commencé à aimer les Beaujolais, en blanc, en Bourgogne, tout ça, parce que les blancs de par chez nous, ils sont un peu trop forts.
Un peu riches, oui.
Voilà, trop riches. Donc j'ai voulu faire des vins avec les cépages. On a quand même des Carignan, Grenache, Cinsault qui ont plus de 70 ans, 70-130 ans, plantés juste après Phylloxera. Donc j'ai voulu faire des vins qui étaient plus faciles avec nos cépages. Donc c'était un gros travail en vinification surtout, pas aller chercher trop loin l'extraction. Sur les maturités aussi, très très important. Avant, on ramassait très mûr. Maintenant, on ramasse un peu moins mûr.
Pour garder de l'acidité.
Pour l'acidité, voilà. Par contre, il ne faut pas aller chercher trop loin.
Il y a autre chose, c'est que, alors, tu me disais, la conduite de la vigne se faisait de manière très raisonnée. Et déjà, ton père ne mettait pas de produits chimiques phytosanitaires sur la vigne. Mais au moment de la vinification, quand un œnologue vient vous entre guillemets, vous apprendre à faire du vin, bon, ben, lui, il a une méthode qui est l'œnologie française, quoi.
Voilà,
l'œnologie moderne, comme on nous a dit souvent.
Disons que c'est une personne qui a fini première dans son école. Donc il était à la pointe de tous les produits qu'on pouvait mettre. Et moi j'ai trouvé pendant 3-4 ans là tout ce que j'ai mis. Je me posais la question, depuis 4-5 000 ans qu'on faisait du vin, ça faisait qu'une cinquantaine d'années quoi, qu'on avait ces produits. Donc j'en ai pas mal parlé avec lui. Il me disait que c'était pas possible de faire des vins naturels. Moi j'étais de plus en plus. Tous les vins que je goûtais, en fait, j'étais attiré par les vins naturels sans le savoir. Donc à partir de 2003, je n'ai plus mis d'intrants, si ce n'est du SO2 de temps en temps, dans les vins, voilà, pour rechercher une pureté. Il faut que quand on boit le vin, quoi, on sente la grappe de raisin, quoi, c'est tout.
Donc maintenant, c'est un domaine qui est conduit vraiment en bio avec le label bio. Et tu vas même jusqu'à faire des cuvées complètement sans soufre.
Voilà, oui. Bon, on est labellisé bio parce que pour faire certains salons et puis par rapport à certains importateurs, c'est quand même. Ils demandent d'être labellisés, mais je ne le revendique pas forcément. Sur les bouteilles, sur nombreuses cuvées, je le marque pas. Mais après, je vais plus loin aussi dans la démarche avec les traitements, avec des tisanes, voilà.
Vers la biodynamie.
Voilà, on travaille pas mal avec. On regarde beaucoup les influences lunaires pour les mises en bouteille, le certain travail du sol. Biodynamie, j'en ai fait un petit peu, mais c'est par manque de temps. Voilà, par manque de temps, les préparations, je les passe plus. Mais je pense que je vais y revenir parce que j'ai vu quand même une amélioration sur les sols et je pense que c'est bénéfique. Voilà.
Donc sur quoi des choses, des infusions à la prêle, des choses comme ça?
Oui, voilà, des orties de prêle. Voilà. Mais ça on en met, on traite avec du petit lait aussi. On va assez loin, mais ça marche quoi, ça marche. Et puis c'est très très intéressant de pouvoir. Aider la plante avec des produits naturels comme ça.
Alors, je reviens sur quelque chose que tu as dit, le fait de t'es des corbières et d'aller goûter des vins d'ailleurs. Et tu disais, bon, bah, peut-être qu'un peu dans les corbières, on avait l'habitude de se goûter nos vins entre nous. Ça, c'est quelque chose qui, j'imagine, t'a vraiment ouvert un petit peu à d'autres façons de faire le vin. Et c'est quelque chose que nous, on a souvent entendu, beaucoup de vignerons nous dire. Oui. Et c'est pas un hasard, je crois, que vous soyez rencontrés chez Antoine Arena en Corse.
Ça,
Ça, c'est une démarche que tu continues. Donc, tu as des gens que tu vas visiter régulièrement, des vignerons, des copains vignerons, en dehors des salons, peut-être, que tu vas voir dans les domaines.
Oui, disons que quand je me déplace, je m'arrête de temps en temps chez des amis vignerons. Mais après, le.
Qu'est-ce que tu retiens de ce que tu goûtes quand tu vas en Beaujolais? Est-ce que c'est des choses que tu peux transmettre à tes carignans alors qu'eux font du gamay?
En fait, le Beaujolais, c'est un bel exemple parce que c'est un peu ce vin-là qui m'a donné envie de faire des vins plus faciles, plus gourmands, avec mes cépages. Moi, je fais, j'ai deux cuvées où on pourrait croire que c'est du Beaujolais, alors que c'est fait avec du Mourvèdre, du Carignan, et j'ai un pur cinceau aussi, qui se rapproche du Gamay quand même. Hein. C'est un cépage qui est quand même proche du Gamay. Donc, ce sont des vins que je fais parce que justement, je me suis ouvert aux autres régions et j'étais gourmand justement de ces vins-là.
Voilà. Ça veut dire quoi, fermentation carbonique, semi-carbonique, c'est ça inspiration beaujolaise?
Je fais pas de carbo, mais peu semi-carbo. J'ai grappe, mais je foule pas, je touche pas le raisin.
Sans fouler tout de suite, en fait, voilà.
Voilà.
Donc, la fermentation intracellulaire, on foule pas tout de suite, on attend un peu.
Voilà, c'est ça. Après, voilà.
Fermentation préalable.
Les fermentations des cuvaisons assez courtes, 5, 6, 7 jours. Sitôt que le tannin un petit peu astringent arrive, quoi, je soutire, je pressure. Alors ça, c'est un travail de cave que j'ai appris moi sur le tas, voilà, en me posant beaucoup de questions et en faisant des essais. Le problème qu'il y a, c'est que c'est une année chaque fois. Si on se loupe un peu, il faut attendre l'année d'après. Mmh. L'année d'après, le millésime est complètement différent, il faut s'adapter. Enfin, ça, c'est le travail de tout vigneron, quoi.
C'est pas... mmh. Qui, alors, en Beaujolais, qui sont tes copains, tes maîtres, oh, tes confrères?
J'ai pas de maître, mais les vins que j'aime bien, c'est le Noun, enfin, Georges Descombes.
Georges Descombes.
Après... la Palu,
d'accord.
Voilà, des gens que j'ai rencontrés quoi, sur le tas, puis surtout sur des salons parisiens. Je viens quand même sur Paris 2-3 fois par an. C'est quand même une ville où il y a beaucoup de vins très intéressants, et la gastronomie aussi. Mmh. Je suis quand même fin gourmet. Hein.
Et puis c'est pas mal.
Voilà.
La décoration tombe.
Tout se passe bien, c'est juste la déco effectivement qui se casse la figure. Tu vas faire un détour, je sais pas, dans le Jura également. Tu vas où il y a des endroits comme ça de prédilection.
Je bois des vins, oui, de là-bas, Tournelles notamment, c'est des amis à moi, mais après je suis pas allé encore, non.
En Loire.
En Loire, chez Jousset, oui.
Lise et Bertrand Jousset qui sont également ici au vin de mes amis.
Avec mon frère, mon petit frère qui travaille avec moi en fait.
Mathieu.
Et on est passé les voir. Ouais. Après, c'est surtout des dégustations à la maison. On fait beaucoup d'échanges avec les amis de vin. Et on boit beaucoup de vin les copains. Quoi. Mmh. Et j'essaye de faire découvrir un peu par chez moi les vins, d'autres vins.
En quelques mots, on présente quand même un petit peu les cuvées. Quels sont les vins que tu fais? Tu l'as dit, il y a un 100% Cinsault, qui est un truc que voilà. Patrice, tu nous as vendu, tu nous
rapidement.
As raconté comme quelque chose d'assez sympathique. Dis-nous, en quelques mots, les fait, différentes cuvées.
Voilà, en fait, quand j'ai commencé, moi, on est une région de rouge quand même. Je m'intéressais pas trop aux vins blancs dans les années 98-2000. Et petit à petit, quand j'ai commencé à goûter certaines Bourgognes, Loire, je me suis dit quand même le blanc c'est bon. Hein. Mmh. Et les vins chez nous étaient un petit peu trop lourds, des blancs. Donc j'avais un peu de Grenache blanc et Macabeu et du Carignan blanc. Donc j'ai commencé ma première cuvée en 2008. Voilà, bon, je l'ai ramassé mûr. C'est pas trop une réussite, je pense. Bon, c'était ma première cuvée en blanc. Et voilà, à partir de 2009, j'ai cherché sur la fraîcheur, l'acidité. Donc, vendanger tôt, pas aller trop loin. C'était assez délicat. Moi, je pense que les blancs sont plus compliqués à faire que les rouges.
C'est vrai. Parce qu'il y a moins de travail après pour pouvoir influer en cave, je veux dire.
Voilà, après, c'est les extractions, tout ça. Bon, on peut pas...
Peut-être dans le sud, c'est peut-être plus dur dans le sud que dans le nord, non,
voilà,
la France.
Après, non, j'ai pas vinifié là-bas, mais moi, nous, le gros problème qu'on a, c'est quand on travaille naturellement, qu'on met pas d'intrants, c'est l'acidité surtout. Mmh. Donc il faut arriver à trouver un compromis entre l'acidité et la maturité du raisin.
Un raisin qui est déjà mûr, mais qui reste suffisamment acide.
Et voilà. Donc souvent, moi, je ramasse des vins entre 11 degrés et 13 degrés, ça n'est pas assez pâche. Je fais des Carignan blanc maintenant. Ce sont des vieilles vignes aussi. C'est vraiment le cépage adapté à notre région. Je ne comprends pas pourquoi ils ont tout arraché en Carignan blanc. C'est super cépage et ça donne un super vin. Mmh. Voilà. Les chardonnays, les sauvignons chez nous, quoi, c'est pas... Et ça manque d'acidité, donc c'est trop mûr, c'est pas du tout...
Même si j'ai goûté un truc assez sympa en terrasse du Larzac, en Chardonnay.
Oui, chez terrasse du Larzac, c'est déjà...
Oui, on est un peu plus, un peu plus d'altitude.
Voilà. Après, bon, par chez nous, sur le côté Limousin aussi, il y a des super Chardonnay. Maintenant, ça n'a rien à voir avec mon climat. Moi, je suis vraiment au cœur des Corbières, sur le terroir de Boutenac. À 200 mètres d'altitude maximum. Mmh. Voilà, je suis entre 50 et 200 mètres, donc la fraîcheur, moi je la trouve dans surtout le côté minéral des vieilles vignes qu'on a. On a beaucoup de vignes qui ont 70-130 ans. Voilà, donc,
qui vont chercher loin dans le sol.
Voilà,
quoi.
Voilà. Et c'est les vignes qu'on préserve, bon, c'est compliqué. Quand on les travaille, il faut faire attention de ne pas couper les souches.
C'est les vieilles dames.
Voilà, non mais c'est ça. Quand on coupe une souche, je suis malheureux. Hein. Mmh. Si la souche que tu coupes pouvait te raconter toute sa vie, quoi. Elle a passé 100 ans, 120 ans à voir le siècle passé, c'est magique ça. Il faut préserver toutes ces vignes. Et maintenant, quand on replante, bon, je replante un petit peu de blanc. On a un domaine de 17 hectares, ça c'est suffisant. Mais les blancs que je replante, on se fait nos sélections massales. Hein, avec les bois qu'on a dans notre domaine. Et on fait des greffes enfantes, un peu comme bon, ça, mon père savait greffer, donc il nous l'a appris. C'est beaucoup plus long, mais c'est comme ça que les vignes risquent de durer davantage que ce qu'on achète chez un simple pépiniériste. Mmh. Parce que nous, on plante, fait, moi je plante pour, en pensant un peu à. J'ai un petit garçon, j'aimerais qu'il continue. Quoi, bon, s'il veut faire autre chose, il fera autre chose. Mais si c'est pas lui.
Il a la possibilité de continuer en tout cas. Voilà, qu'il ait la possibilité de continuer.
Si c'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre qui profitera de ce travail-là. Voilà.
Très bien. Super. Et les risques un peu là, t'es touché par quoi plutôt, les maladies, la sécheresse, c'est quoi les difficultés des corbières?
Le souci qu'on a un petit peu maintenant, c'est le dérèglement climatique, ça. On s'en aperçoit de plus en plus. Donc je me rends compte quand même que les vieilles vignes et tout s'adaptent, mais... Enfin, ça l'homme ne... nous on peut rien faire contre ça. Enfin, c'est le monde entier qui pourra faire trouver des solutions, mais pour le moment c'est un petit peu.
Le vigneron, c'est lui, il est bien obligé de s'adapter.
Voilà, nous on s'adapte au changement, tout ça, mais bon, après c'est notre problème, ça.
Vous manquez d'eau concrètement?
Cette année non. Cette année on a eu. Il a plus 1000 mm. D'habitude, une année normale chez nous, c'est 500. Donc voilà, cette année, bon, voir de l'eau partout, pour nous, c'est joyeux, quoi, des cours d'eau qui...
Ouais. Alors que la Savoie, par contre, ils sont...
Vous voyez, voilà, il y a un très gros dérèglement. Hein. Là où il pleut d'habitude, il n'a pas plu, et là où il ne pleut pas... Bon, après, on a du gel aussi, chose qu'on avait très rarement. On a un peu de gel. Après, voilà, le dérèglement, des grêles qui étaient plus rares, on s'adapte. Hein.
Le millésime, comment, alors là, ce que tu as ici, j'imagine que c'est plutôt 2017.
Voilà.
À quoi va ressembler 2018?
2018, c'est un millésime qui est très bien pour les vignerons qui font des vins sur le fruit, la gourmandise, comme je fais, donc moi ça me va très bien. C'est un millésime qui manque en fait de puissance, de structure. Voilà. Les tanins sont soyeux, légers, donc ceux qui veulent faire des vins de garde, ça va être un petit peu plus compliqué pour 2018. Voilà.
Parce qu'il a manqué de soleil, c'est ça ou...
Non, c'est l'équilibre de la plante. En fait,
l'équilibre.
Voilà, c'est... Il y a eu de l'eau, beaucoup d'eau au printemps. On a eu cet été 2-3 beaux orages aussi, dont le vin ne s'est pas concentré. C'est pas...
Donc voilà, c'est un peu dilué. Quoi.
Voilà, c'est gourmand, c'est très agréable, mais ça va manquer de puissance.
Ben, merci beaucoup, Xavier. On n'a pas trop dit là. Si on doit juste résumer les 3-4 cuvées qui comptent dans le domaine Lodogar. Ben, on t'a parlé un petit peu des blancs. Elles sont toutes bonnes, bien sûr. On a quelque chose qui s'appelle les Brunelles, c'est ça? C'est le Cinso.
Les Brunelles, c'est le pur Cinso. Après, il y a la Mariole qui est quand même l'une de nos premières cuvées. C'est la cuvée, je pense, qui est la plus connue du domaine, hein, c'est dans 30
Carignan, gamme. Carignan, avec, voilà,
disons que la Mariole, ça a été longtemps des purs Carignan, des Carignan centenaires qui étaient sur des sables éoliens, des sables à flanc de colline en fait, des sols légers, qui faisaient des raisins gourmands, mais manque de puissance. C'est pour ça que j'ai fait cette cuvée avec des Carignan centenaires. Après, il y a la Compagnon, c'est la cuvée du Compagnon. Mon petit frère qui était compagnon du devoir pendant 5 ans a tout arrêté quoi, quand il a eu 22 ans pour venir travailler avec moi. C'était le moment où je cherchais un nom de cuvée, donc j'ai fait la Compagnon. Après, bon, il y a une cuvée que j'appelle Tout Nature, hein, qui est sans sulfite. Hein. Voilà, je ne mets jamais de sulfite dedans. Si la cuvée est un petit peu... fragile, je la sors pas. Voilà, les années où c'est compliqué. Et après tous les vins, s'il faut filtrer, je filtre quand je mets le vin en bouteille assez tôt. Sinon pas de filtration et sulfite très peu à la mise, 1 gramme. Hein, pour me.
C'est difficile de supprimer ce gramme-là. à la mise.
Ça dépend des années. Ça dépend des années, mais il vaut mieux, disons, que j'ai eu quelques soucis par le passé que je ne veux pas reproduire. Et puis, 1-2 grammes, ça permet, quand le vin ne voit pas de sulfite durant toute sa... tout le temps où on le fabrique, c'est quand on met 1 ou 2 grammes, quoi, ça suffit pour stabiliser le vin. Voilà. Après, ce sulfite se combine assez rapidement. Donc, voilà. Tous les vins là, que je fais, ils sont en dessous de 30 mg total. Donc, voilà.
Ben merci beaucoup. Il y a déjà pas mal de monde qui est arrivé. Pourtant, on est le matin tôt, là, mais il y a déjà pas mal de monde qui vient goûter des vins. Et donc, tu vas être voilà, sollicité par des amateurs. Tu avais une dernière question, Patrice ?
Non, ben merci beaucoup pour ce temps consacré.
On va goûter ces vins et puis on va aller goûter un petit peu quelques tables. Merci, Xavier.
Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt, bon retour. Alors, on a changé de stand. On est maintenant au stand de la famille Plajol à Gaillac, avec, en compagnie de Florent Plajol. Florent, bonjour.
Bonjour.
Alors, je suis toujours avec Patrice.
Bonjour.
Je sais exactement ce que je vais te dire. On a reçu Michel Tolmer il y a quelques jours,
okay,
qui nous a dit, parce qu'on a parlé de Sud-Ouest avec lui, qui nous a dit à Gaillac, Mozac, il y a un produit qui est un produit de première nécessité, c'est le Mozac Nature de chez Plajol.
Il paraît que ça sauve des vies, ouais, j'ai entendu ça.
C'est ça, c'est ce qu'il nous a dit, ouais. C'est la sauve la sienne en tout cas.
Parle-nous un petit peu de ce domaine. Voilà.
Ouais, bah alors le domaine Plajol, donc nous on est vignerons à Gaillac. Quand je dis nous, c'est en famille, hein, puisque mes parents sont encore au domaine. Mon frère est au domaine aussi, donc on travaille tous les quatre, hein, au domaine. Depuis maintenant, alors moi depuis 10 ans, mais le domaine existe depuis presque 200 ans, hein, puisqu'on est la 6e génération de vignerons avec mon frère. Et donc on travaille 30 hectares de vignes sur le Gaillacois. Avec en quasi-totalité des cépages locaux. Donc voilà, ça a été la marotte un peu du domaine depuis le début, c'est de travailler vraiment les cépages gaillacois, les cépages autochtones, cépages qui ont toujours été présents plus ou moins dans le gaillacois, ou cépages qu'on a remis en culture, petit à petit, donc des cépages disparus.
Et il y en a un certain nombre.
Et il y en a un certain nombre, oui, tout à fait. Parce que ne serait-ce que dans la famille des Mozac, on trouve 7 variétés de Mozac différentes.
Ah oui,
vous avez les 7.
Et on a les 7, on en travaille 5 parmi ces 7. Et on en a 2 en conservatoire, parce qu'on a aussi monté un petit conservatoire viticole au domaine pour pouvoir conserver et protéger ces variétés et pour pouvoir un jour les retravailler. Voilà.
Est-ce qu'il y a des gens du coup qui viennent vous voir en disant ben, je serais intéressé par... vos cépages, parce que vous êtes
bien
un peu
sûr.
Une pépiniériste.
Un petit peu, oui. Oui, on a des copains vignerons qui sont venus déjà chercher des variétés, parce que pour certaines de ces variétés qui sont à Gaillac, certaines ont aussi été travaillées ailleurs dans le Sud-Ouest. On parle de l'Ondenc notamment, que là que j'ai sur la table, qui a été aussi travaillé, qui a été un des cépages travaillés notamment dans le Bergeracois, dans les Côtes de Duras aussi. Donc on a un copain, oui, Christian Roche, là, domaine de l'ancienne cure, qui est venu chercher des bois d'Ondenc pour les retravailler.
Question bête, vous avez le droit d'être pépiniériste ?
Pardon ?
Parce que vous avez le droit ?
Non, oui,
par rapport aux AOC, par rapport
oui,
à
toute oui, la réglementation. Alors, disons qu'il faut ensuite passer pour un pépiniériste pour le greffage, ça c'est obligatoire. Voilà, après, le droit, je sais pas, mais disons qu'on a...
vous le prenez en tout cas.
Voilà, et ça fait partie, à mon avis...
La coopération entre...
Si on peut plus s'entraider entre nous, on va dans le mur, hein, et encore plus dans le Sud-Ouest, parce que le Sud-Ouest étant très grand, on a besoin de se rencontrer, d'échanger, et ça fait partie du métier. Hein.
Justement, voilà. Tous ces cépages-là, est-ce que... Alors, je vais poser une question comme ça, mais est-ce qu'ils valent le coup pour eux-mêmes ou il faut les mettre en assemblage ?
Alors,
le Mozac, il vaut le coup pour lui-même. Puisque
moi, je pense que tous les cépages valent le coup pour eux-mêmes. Mm-hmm. Ça, je pense.
Il n'y a pas de petits cépages.
Il n'y a pas de petits cépages, voilà.
Il n'y a que des cépages mal travaillés.
Ouais, exactement. Voilà, pour moi, c'est une évidence. Pour nous, au domaine, c'est une évidence. Donc, de toute façon, on continue à travailler, nous, dans cette lignée de monocépages. Après, il n'empêche pas qu'on peut faire des très grands vins d'assemblage à Gaillac et ailleurs. Ça, c'est pas un problème. Nous, on a décidé de suivre cette voie parce qu'on estime que les cépages que l'on a sont des cépages quand même assez rares, des cépages qui sont méconnus du grand public. Et pour les présenter dans leur plus pure expression, le meilleur moyen, c'est de les faire à monocépage. Voilà. Et je pense qu'on arrive à les valoriser comme ça.
Le domaine ne fait que du monocépage.
Exactement. D'accord. On fait que du monocépage, sauf une seule cuvée que j'ai pas là, une petite cuvée expérimentale, on va dire, qui s'appelle Terroiriste, et on fait l'inverse. On assemble tous les cépages du domaine.
Légèrement provocateur, voilà. Terroiriste.
Exactement. On assemble blanc, rouge, absolument tout, et même les cépages du conservatoire, donc les 14 cépages qu'on a en conservatoire. Voilà.
Ok. Comment ça marche le conservatoire ? Du coup, c'est une parcelle à part, qu'on travaille à part, qu'on vinifie. Enfin.
Voilà, alors c'est une parcelle, c'est 8 rangées dans une parcelle, en fait, hein, qui sont à l'extrémité d'une parcelle, que l'on travaille pas forcément à part, dans la même lignée dans laquelle on travaille le domaine, donc en agriculture biologique, avec un travail approfondi de la vigne. Et on a une dizaine de pieds, on va dire, de chaque variété. Jusqu'à présent, on n'en faisait rien. Et on a décidé avec mon frère en 2014 de se dire c'est dommage de laisser tomber ces raisins, bon, il faudrait bien qu'on fasse quelque chose de rigolo. Donc on s'est dit plutôt que de les balancer, on va faire une petite cuvée avec ça. C'est comme ça qu'est née la cuvée terroiriste.
Et le résultat
voilà. Et le résultat est plutôt fun. Ouais. C'est assez bon, c'est même très bon. C'est assez intéressant parce que du coup on a 14 cépages différents, des maturités évidemment forcément qui diffèrent parce qu'on les ramasse en une matinée. Donc. Donc on a des cépages qui sont mûrs, d'autres qui le sont moins. Et ça, en fait, cet assemblage crée un équilibre. L'équilibre se fait tout seul, quoi. L'équilibre est là. On essaie de trouver une maturité médiane et puis on y va et ça fonctionne. Donc pour l'instant, on est plutôt content de ça. Après, je vous parle de ça, c'est 1000 bouteilles par an. Hein, ouais. Donc c'est une goutte d'eau dans ce qu'on fait. Mais
il y a souvent chez les vignerons une petite cuvée dans laquelle ils s'amusent un peu.
C'est ça.
C'est celle-là.
Ouais, c'est celle-là. Après, on s'amuse aussi sur d'autres, sur des cuvées où on a un peu plus de volume. Si on s'amusait pas dans ce métier en vinification, on s'ennuierait aussi un petit peu, quoi, s'il fallait faire toujours les mêmes choses. Alors il faut bien sûr garder à l'esprit qu'il faut quand même qu'on fasse des vins qui se tiennent, des vins droits, et qu'il faut qu'on vende aussi du vin, il faut qu'on vive, mais il faut aussi s'amuser. Si on ne s'amuse pas, à mon avis, aucun intérêt. Voilà.
Est-ce que tu crois que ce serait possible de goûter un ondin, c'est ça ?
Oui, bien sûr. Alors les ondins que j'ai là, donc c'est ce qu'ils font. Ils rentrent dans cette cuvée qui s'appelle le vin d'Autan, qui est la première cuvée de liquoreux. Comme le vin, hein, c'est issu de ça, parce que c'est une cuvée qui a été créée par mon grand-père dans les années 80. Mon grand-père et mon père, pour en fait, on se servait du vin d'Autan pour vraiment dessécher complètement les baies de raisin. Voilà, donc les raisins étaient ramassés, étaient étalés sur des clés.
Passerillage.
Voilà, c'est un passerillage totalement. Voilà, et donc le vin d'Autan, c'était le facteur clé pour concentrer ces raisins là. Donc la cuvée s'est appelée logiquement vin d'Autan. Je vais vous faire goûter ça.
Quand on interroge un peu les vignerons, il y a vraiment une idée de se dire ok, on va refaire comme il y a 50 ans, 100 ans, etc. C'est-à-dire avant ce qu'on appelle le conventionnel, mais bon, en gros la chimie. Il y a une volonté, j'ai l'impression, de revenir un peu sur les méthodes ancestrales, quoi.
Tout à fait. Tout à fait, puis on peut le faire aujourd'hui avec des outils plus modernes, donc qui facilitent aussi notre travail, hein, parce qu'à l'époque, quand ils sont venus les vignerons qui faisaient du bio, qui ne s'appelait pas du bio, quand ils sont passés au conventionnel, c'est aussi par confort de travail et par confort de vie, hein. C'était pour avoir 2 semaines de vacances par an ou 3 semaines pour pouvoir aussi profiter de sa famille et pas passer tout son temps dehors. Donc ça se comprend et ça s'entend. Et surtout, ils n'avaient pas les informations que l'on a aujourd'hui.
Et aujourd'hui, la science qui a apporté cette chimie à l'époque, elle apporte aussi la possibilité de s'en passer, finalement.
Exactement.
Retomber dans une vie de forçat.
Voilà. Voilà, la science et puis la mécanique aussi. Voilà, on n'a pas les mêmes charrues, on n'a pas les mêmes outils. C'est un confort de travail. Aujourd'hui, on décavaillonne les 30 hectares. Nous, à une vitesse qu'il n'avait pas avant, et ça nous permet quand même de s'octroyer aussi des temps de repos et des temps de vacances.
C'est les bourgeonnages, hein, c'est ça?
Non, les décavaillonnages, c'est le travail des sols, c'est travailler sous le rang, en fait, hein, c'est éliminer l'herbe qu'on a sous le rang. Comme on ne désherbe pas chimiquement, mais il faut quand même,
travailler
mécanique avec une charrue, voilà.
Mais qui ne tue pas le sol et qui ne l'appauvrit pas.
Des cavaillonneuses intercepts, ça s'appelle.
Il y a un nez qui est magnifique.
Voilà, donc vin d'Autan 97, c'est pas jondin 100%, et c'est du passerillage total. Voilà, c'est une vinification en cuve qui va durer 2 ans. Et voilà, là on est sur des équilibres à 280 grammes de sucre résiduel, hein, donc on est quand même assez haut en sucre.
Il y a du sucre.
C'est
peu alcooleux.
C'est peu alcooleux, hein, ça fait 11 degrés, 11,5. Il y a une jolie volatile, une acidité volatile, hein, qui aide aussi énormément à soutenir ces vins-là, parce que le sucre va masquer ce que peut amener de mauvais la volatile, donc les aromatiques que peuvent amener la volatile. Par contre, l'acidité volatile, c'est quand même de l'acidité, et elle va porter aussi le vin avec ses sucres. Voilà. Et dans ces vins liquoreux, c'est prépondérant.
Ouais, c'est... Voilà. Moi, j'ai
le nez incroyable.
C'est unique. Sublime.
Voilà, donc là on est sur le millésime 97 qui était un très beau millésime à Gaillac. Et on sent que c'est encore un vin qui en a sous la pédale, comme on dit.
Ouais.
Ça peut encore se garder une grosse 20 ou 30 ans sans aucun problème. Voilà.
Superbe.
On a la couleur d'un cognac en fait.
Un petit peu, c'est ça. Très cuivré. Alors ça, c'est aussi amené par les petites macérations qu'on fait. On fait une petite macération de 4-5 jours sur ces vins-là. Tout simplement parce que quand on les sort des clés, les raisins sont tellement desséchés que si on les met au pressoir tel quel, on ne peut pas le presser. En fait, il faut absolument qu'il y ait un peu de jus qui s'extrait par la masse et qui va commencer à fermenter pour dégrader un petit peu les peaux, dégrader un petit peu les sucres des baies, et ensuite le mettre au pressoir. Sinon, ça serait très difficile de le presser. Voilà, c'est aussi ce qui donne un peu la couleur.
Merci beaucoup, Florent.
Avec grand plaisir.
Est-ce que tu as un Mozac Nature d'ouvert ?
Oui, bien sûr.
En hommage à Michel Tolmer qui nous l'a tellement bien vendu.
Le voilà, Mozac Nature 2017.
Superbe.
Voilà.
Eh ben, je veux bien.
Bouteille de survie.
Ouais, c'est ça. Le vin qui sauve des vies. Michel, si tu nous écoutes. Donc c'est un vin
pétillant naturel. C'est issu d'un cépage qui s'appelle Mozac Rose, donc qui fait un des membres de la famille des Mozac dont je vous parlais tout à l'heure.
Il est toujours fait avec le même Mozac.
Ouais. On essaie d'en mettre le plus possible. Alors, il nous arrive de rajouter des fois un peu de Mozac vert, un peu de Mozac roux aussi, parce qu'on n'a pas assez de Mozac Rose encore pour faire le volume de Mozac nature que l'on souhaite. Et donc l'idée de ce vin-là, en fait, c'est que c'est un vin dans lequel donc les fermentations alcooliques vont se faire toutes seules. Et qu'on va juste, stopper ces fermentations alcooliques une fois qu'on atteint 30 grammes de sucre résiduel.
Il reste un peu de sucre.
Voilà. Mmh. Donc on laisse ces vins-là ensuite en cuve, béton, pendant tout l'hiver. Et on tire ça toujours la dernière semaine de janvier. Voilà. Une fois que le vin est en bouteille, on le laisse tranquille, on le met dans un stock à température. Et quand le printemps redémarre, que les températures se réchauffent, le vin, lui, il reprend sa fermentation. Il va manger ces 30 grammes de sucre résiduel et il va provoquer le pétillement. Mmh. Voilà. Il crée la bulle. Le seul petit truc, c'est que nous, on ne dégorge pas, par contre. Voilà. Donc, il y a toujours un petit léger dépôt au fond de la bouteille, mais qui marque vraiment, qui authentifie cette cuvée-là et ce vin-là.
Ouais. Il reste, pour le coup, plus vraiment de sucre. Là.
Il reste entre 5 et 6 grammes, là.
On est à peu près...
C'est pas sec totalement, mais c'est pas non plus très sucré. Ça permet d'avoir juste un côté gourmand, facile à boire, intéressant.
Et très rafraîchissant.
Voilà, et ça reste rafraîchissant parce qu'on est sur des petits degrés quand même sur les Mozac. C'est ramassé autour de 11, 11,5 d'alcool potentiel. Donc on reste sur quand même des choses assez vives, assez frais. Quoi.
Ouais. Voilà. Il y a juste un léger pétillement.
Voilà.
Après, j'espère, je vais pas dire du mal, mais ça rappelle, je crois, il y a un petit côté cidre parce que je crois que le Mozac tire un peu sur la pomme.
Exactement. Puis la méthode, ça rapproche finalement. La méthode de vinification se rapproche aussi d'un cidre. Mmh. Tout simplement parce qu'on ne dégorge pas, donc on a la levure les levures qui restent à l'intérieur. Mmh. C'est vraiment une méthode très ancienne.
Ça se rapprocherait d'un cidre entre guillemets.
Oui,
beaucoup moins gustatif, beaucoup moins sur le côté levuré.
Ouais.
On a beaucoup plus la fraîcheur du cépage et du raisin.
Et le marqueur du Mozac, surtout sur ces degrés-là, à ces degrés alcooliques-là, entre 10 et 12 degrés, c'est vraiment la pomme fraîche. Hein.
Ouais. Mmh.
Donc c'est un marqueur que l'on retrouve.
C'est vrai que c'est hyper agréable ça.
Ouais. Voilà. Hyper agréable. Merci Florent,
voilà, messieurs.
Laisser parce qu'il y a du monde qui passe ici au vin de mes amis. Tiens, la toute petite question bonus, c'est le vin de mes amis est présenté comme un salon où je crois que c'est ce qui est écrit sur le site, des vignerons qui partagent la même idée du vin.
Oui.
Ce serait quoi l'idée du vin dont il est question ?
L'idée du vin, je pense l'idée qu'on a tous ici, à 95% de notre travail se fait dehors, se fait dans les vignes et se fait dans le respect des terroirs sur lesquels on est. Faire du vin ensuite, quand on a bien travaillé ses vignes et qu'on ramasse du raisin de bonne qualité, c'est la finalité, mais c'est beaucoup plus facile. Et on essaie, je pense, tous d'avoir cette idée-là. C'est-à-dire que pour faire des grands vins, enfin des vins en tout cas naturels, en tout cas le plus naturel possible, il faut respecter nos terroirs, respecter nos sols. Et ça passe par au minimum de l'agriculture biologique et puis au mieux, évidemment, d'aller encore plus loin sur la biodynamie, sur autre chose. Mais en tout cas, d'avoir un respect de nos sols le plus pur possible. Voilà. Je pense qu'on a tous cette idée-là.
Vous faites de la biodynamie chez Plageol ?
Alors, on n'est pas certifié en biodynamie. On a passé 8 hectares. On travaille 8 hectares en biodynamie pour s'y essayer tout simplement. Ouais. Hein, parce que moi, j'ai pas envie de... 30 hectares, ça fait beaucoup en biodynamie.
Ouais.
Et avant de passer 30 hectares, on veut se faire la main sur 8.
Ouais, et puis c'est la logique du vigneron d'essayer toujours et d'expérimenter.
Voilà. Ouais. Là, cette année, on a essayé d'autres choses aussi. Des semis directs sur certaines parcelles. Voilà. On expérimente, on s'amuse. Ce que je disais tout à l'heure, mine de rien. Toujours dans une idée quand même de faire le mieux possible. Mais on expérimente tous ces systèmes de travail là pour pouvoir peut-être après choisir le bon ou peut-être mélanger un petit peu tout, voilà, mais pour pouvoir faire quelque chose qui nous ressemble en tout cas et qui surtout respecte nos sols.
C'est vrai que malheureusement le sens de l'histoire, ce que nous disait Gilles Berlioz qu'on a eu, c'est plutôt lui, il a divisé par deux ses surfaces pour pouvoir mieux travailler.
Exactement, voilà. Moi, 30
hectares, c'est vrai que l'économie, c'est compliqué.
Exactement. Mais peut-être qu'on va tirer sur la décroissance et puis qu'on va rebaisser d'ici quelques temps aussi. Je ne sais pas. S'il faut baisser et retomber à 25 ou 20, moi, ça me va très bien. Hein. Voilà. Pour l'instant, on a la capacité de gérer ça. Si un jour on ne l'a plus.
La famille est nombreuse. Vous avez des bras.
On est nombreux. On a du monde qui nous aide, bien entendu. Mais on n'a pas non plus des temps de repos énormes. Donc, voilà, il faut qu'on arrive à gérer tout ça. Quoi. Voilà.
Merci beaucoup, Florent.
Merci à vous.
Merci, à bientôt. Messieurs.